Coaching au Segor, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au Segor, l'interview sur Web Radio. Le 1er février, la Fondation Abbé Pierre a sorti son 29e rapport sur l'état du mal-logement en France. Des chiffres alarmants qui mettent en évidence clairement une crise du logement dont la situation se dégrade. 4,1 millions de personnes sont mal logées en France, 330 000 sont sans domicile fixe alors que c'était 143 000 en 2012, 2,4 millions de ménages sont en attente d'un logement social alors que c'était 2 millions seulement en 2017, enfin seulement. 93 000 logements sociaux ont été financés en 2023, tandis que c'était 125 000 en 2016, et 9 157 000 personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté en 2021. C'était 8 565 000 en 2020. Le logement représente donc un vrai problème dans notre pays, mais notre territoire n'y échappe pas. Pour en parler, alors pour parler de ce problème du logement, mais surtout de solutions, j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Martinelli, chargée de communication de l'association Habitat et Humanisme Pyrénées à Dour. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Bienvenue chez nous. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre est clairement inquiétant. Alors pour faire baisser ces chiffres, il y a des initiatives, beaucoup associatives, et notamment celle de l'association Habitat et Humanisme. C'est une association nationale qui existe depuis 40 ans et qui compte 59 antennes locales en France, dont l'antenne Pyrénées à Dour que tu représentes. La mission de Habitat et Humanisme, c'est proposer des logements adaptés aux personnes à faibles ressources en faisant appel à des propriétaires de biens ou à des investisseurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est des propriétaires que chez nous, on appelle propriétaires solidaires qui nous confient leur logement. Donc, c'est l'association qui est locataire.
Qui est titulaire du bail.
C'est ça, tout à fait. Et du coup, nous, on sous-loue. Avec le procédé de... c'est un procédé qui est conventionné par l'État, donc c'est comme ça que ça marche.
Donc du coup, c'est rassurant pour les propriétaires, puisque c'est l'association qui est titulaire du bail.
Le but, c'était de pouvoir proposer aux propriétaires une garantie de loyer, parce que peu importe si le locataire ne peut pas payer, l'association paye quoi qu'il arrive. On prend en charge toutes les vacances, donc entre deux changements de locataire, nous, on paye notre loyer quoi qu'il arrive aussi. Et si jamais il y a des dégradations dans le logement, c'est aussi à l'association... de prendre en charge.
L'association gère la gestion du bien tant qu'elle est en location, c'est...
Oui, on fait aussi la partie gestion locative. Donc c'est vrai que comme on demande un effort au niveau du loyer aux propriétaires, car c'est quand même des loyers en dessous du marché vu qu'on touche des publics précarisés, on garantit à côté une sécurité de loyer, zéro dégradation et on fait toute la partie administrative pour alléger le propriétaire.
Et quand tu dis vous demandez un effort au propriétaire au niveau du loyer, sur quoi vous vous basez par rapport au prix ?
Alors oui, c'est pas nous. Ouais, c'est ça. C'est l'ANA qui détermine des grilles en fonction des territoires et des ressources et des mètres carrés du logement. Donc c'est des loyers qui sont avec un barème fixe.
Très bien. Avec l'inflation, la hausse des prix de l'immobilier, est-ce que c'est de plus en plus difficile de convaincre des propriétaires de devenir solidaires, de passer par vous, sachant qu'il peut y avoir un écart important du coup entre le prix du loyer que vous demandez et puis le prix qui pourrait éventuellement le louer sur le territoire ?
Ah oui, c'est super difficile. Déjà, c'est un propriétaire solitaire, ou ça s'appelle Locavantage, le nom institutionnel. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a beaucoup d'associations qui font ça, mais c'est quand même très méconnu. Donc déjà, parler d'un procédé comme ça, quand les gens ne connaissent pas, ils sont un peu inquiets. Même si au final, il y a plein d'avantages. Parce que le gros avantage aussi, donc, à part la garantie de loyer et sécurité, c'est qu'il y a des avantages fiscaux. Donc ça permet d'équilibrer normalement. Donc on montre au propriétaire, on a un tableau. La perte de loyer s'équilibre avec la réduction fiscale. Mais même comme ça, c'est toujours compliqué parce qu'en plus, on a un public quand même qui est assez stigmatisé. Donc ça peut faire peur aux propriétaires. Et après, c'est vrai qu'il faut quand même qu'ils aient un peu la fibre solidaire parce qu'ils peuvent les louer beaucoup plus ici, surtout sur notre territoire.
Oui, mais comme tu le disais, il y a cet équilibre avec les avantages fiscaux.
C'est ça, il faut quand même être imposé de base. C'est vrai que si on n'a qu'un logement, parfois ça peut ne pas s'équilibrer, mais la perte, elle n'est vraiment pas énorme. Mais même aujourd'hui, c'est énorme le montant qu'on peut payer à des curistes chez nous, à d'accès, ça le problème, sur la côte, en saisonnier. Donc c'est vrai que c'est dur de les convaincre. Notre association, elle est à Pau aussi. C'est beaucoup moins dur de les convaincre à Pau, okay. par exemple.
Parce qu'il y a moins ce système de tourisme qui pèse sur le...
C'est ça, exactement. Eux, ils ont beaucoup plus d'investisseurs. Donc, propriétaires ou investisseurs, c'est pareil. Juste les investisseurs, on les aide à trouver un logement adapté à leurs besoins et à nous aussi. Et ouais, à Pau, c'est moins compliqué.
Alors justement, Habitat et Humanisme Pyrénées-Adour agit sur 3 départements, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Est-ce que la situation est aussi préoccupante dans ces 3 départements? Est-ce qu'il y a des spécificités locales? Tu viens d'en parler en disant qu'à Pau, les propriétaires sont plus faciles à convaincre.
Alors je pense que le besoin de logement, il est à peu près partout pareil. Mais c'est vrai que là, c'est sur la côte. Sur la côte basque et la côte landaise, c'est vraiment difficile. Ça commence à toucher des villes comme Dax, etc. Mais il y a toujours des besoins. Mais c'est vrai qu'il y a plus de solutions à Pau, par exemple, ou dans les villes comme ça, où ça va être plus facile de négocier avec des propriétaires. À Tarbes, par exemple, les loyers ne sont pas très élevés de base. Rien à voir avec un Bayonne. Donc la différence entre le prix du marché et ce que nous, on propose aux propriétaires, elle est moindre. Donc, c'est sûr que c'est plus facile.
Alors vous agissez surtout sur le territoire de la Côte Basque, les agglomérations du Grand Dax, de Pau, de Tarbes et la commune de Tarnos. Comment vous avez déterminé ces secteurs? C'est les besoins justement, les personnes les plus en difficulté, c'est là où elles vivent?
En fait, je pense que c'est les bénévoles qui ont insufflé des antennes. Ça a commencé à Pau. Après, il y a eu une petite équipe qui a voulu, je pense, s'étendre à Bayonne, à Tarbes. Et Dax, c'est la dernière. Et après, on a constitué des antennes qui sont quand même autonomes et qui fonctionnent avec leurs bénévoles gestion locative, leurs bénévoles accompagnants. Après, on est vraiment une association locale, on aime bien quand même à se réunir. Mais c'est vrai qu'on a un territoire très grand.
Enfin, c'est vaste, 3 départements.
Voilà, c'est un peu difficile. Mais voilà, c'est chaque antenne et à son territoire et son autonomie.
Et comment se fait l'attribution d'un logement dont vous êtes le titulaire du bail? C'est un parcours indépendant d'une demande officielle de logement social ou c'est dans ce cadre-là?
Alors non, c'est différent de la demande de logement social, mais nous, on ne prend pas les candidatures en direct. Ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent et on les redirige. Comme c'est des logements conventionnés avec des aides de l'État, le système, c'est de passer par une assistante sociale de secteur qui, elle, rassemble toutes les demandes. Et en fait, il y a des commissions tous les mois qui s'appellent SIAO, Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, où tous les acteurs du logement social temporaire, donc il n'y a pas que nous, il y a la Maison du Logement, il y a Solia, la Croix-Rouge, se réunissent et disent « Ok, bah, j'ai telle candidature, qui a de la place pour... » Et après, on reçoit les personnes, on vérifie qu'ils ont les ressources quand même pour payer le loyer. À partir de là, on les accepte ou non. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas les candidatures en direct.
Et ça veut dire que toutes les assistantes sociales des territoires qu'on vient d'évoquer ont connaissance de votre action et font le relais.
Normalement, oui. Les assistantes sociales, c'est vrai qu'elles ont connaissance de toutes les aides, je pense, qui existent, des associations qui luttent contre le logement. Donc oui. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on va avoir une assistante sociale qu'on va réussir malheureusement à avoir une place, parce que c'est très saturé, hein, même chez nous. La plus forte demande, c'est pour des personnes seules, donc c'est des T1 ou T2, et ça, il n'y en a quasiment pas sur le territoire, ouais, c'est très dur.
Et donc ça veut dire que le temps d'attente, y compris quand une assistante sociale sélectionne le dossier d'une personne et vous le transmet, le temps d'attente est de combien à peu près?
Je sais pas, mais ça, je pense que ça peut être très long. Après, je connais pas, par exemple, les autres associations, leur disponibilité. Mais nous, déjà, en fait, je sais même, il n'y a pas une liste d'attente. Ou après, peut-être les dossiers reviennent à chaque fois en commission d'attribution. Nous, c'est notre assistante sociale qui y va aussi. Mais c'est en fait, soit on a de la disponibilité, soit on n'en a pas. Nos logements, ils sont conventionnés pour des périodes de 18 mois. En fait, normalement, après ces 18 mois, on espère qu'il y a un logement social qui va être donné à notre locataire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, parfois,
l'idée, c'est de proposer un logement de transition avant d'avoir une solution plus définitive.
Nous, c'est quasiment tout le temps du transitoire. C'est pour aider déjà. Parfois, on a des personnes qui ont des difficultés sociales, économiques ou de santé. Donc, c'est pour les aider. OK, on remet les bases, on se remet bien et après, on repart. Et c'est le temps de se stabiliser financièrement et le temps d'avoir un logement social qui, là, est très, très, très long.
Ouais, malheureusement. Du coup, c'est difficile de rester transitoire, en fait, pour vous.
Oui, c'est un peu... Alors, on l'est toujours, hein, parce que, en fait, notre association, c'est ça. C'est si on garde les gens, on aimerait bien, parce que c'est pas facile pour eux de déménager tout le temps. Mais après, on pourra plus aider personne. Mais ils arrivent quand même, au final, à avoir un logement social.
Quelques jours après la publication du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement début février, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le 14 février 22 premiers territoires engagés pour le logement. Est-ce que les trois départements dont vous vous occupez avec cette antenne Pyrénées à Adour font partie de ces 22 territoires engagés?
Alors, je me souviens plus de la liste, mais dans mes souvenirs, il n'y avait que une partie de la côte, mais je ne sais plus c'est quelle ville en plus exactement sur la côte basque.
Et sur ces fameux 22 territoires prioritaires, l'idée c'est de faire naître 1500 logements à l'horizon 2027. Donc en tout, sur toute la France, ça fait 30 000 logements et dont 25% seulement de ces 30 000 logements qui seront des logements sociaux. Est-ce que ça te semble suffisant ?
Pas du tout. En plus, alors ça c'est vrai qu'il faudrait que je me replonge, mais il y a une histoire où il veut modifier le SRU aussi récemment. Donc non, là ça va pas du tout. Je sais que notre association nationale, elle a fait un plaidoyer à Gabriel Attal, en lui disant mais là c'est compliqué là et c'est vrai que bon, nous on a des discussions avec les institutionnels départementales, on rencontre la dette, etc. Et ils ont conscience de ça, eux ils veulent agir aussi mais c'est vrai qu'après ils sont dépendants des subventions nationales mais,
de l'État.
Oui c'est ça.
Bon, en tout cas il y a quand même 2,4 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social en France.
C'est énorme. Donc 30 000 logements, ce n'est pas assez.
Ça, clairement. Il suffit juste de citer ces deux chiffres. En fait, on a la réponse à la question, c'est clair. Bon, allez, on va se faire du bien en musique. On va se consoler en musique avec ton titre. Aujourd'hui, Lorraine, tu as choisi la Symphonie des éclairs de Zao de Zagazan. Ta chanson du moment ?
Ouais, elle est super douce et belle. Et c'est une artiste qui mérite d'être écoutée.
Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs de Zagazan, programmation musicale de mon invité dans Good Morning Hossegor, l'interview, Lorraine Martinelli, chargée de communication de Habitat et Humanisme Pyrénées Adour, une association qui agit en faveur du logement, un vrai problème en France et sur notre territoire. Lorraine, en 2022, Habitat et Humanisme a dépassé le 10 000e logement mis à disposition de personnes et familles en situation de précarité. Et puis, il y a déjà 5 000 propriétaires solidaires qui vous ont fait confiance. Comment vous les trouvez, ces propriétaires ?
On a un peu du mal à les trouver. Parfois, c'est surtout eux qui nous trouvent. Mais on essaie de faire des actions de communication, on fait des communiqués de presse, parfois on fait des événements aussi pour aller à leur rencontre. Mais comme on est une association qui est connue des institutionnels, mais très peu connue du grand public, c'est un peu difficile.
Boulot de chargé de communication, c'est de changer tout ça.
C'est de développer notre notoriété. Donc on a quand même pas mal de bénévoles, donc parfois avec le bouche à oreille, je pense que c'est beaucoup du bouche à oreille aussi. On essaie de les trouver comme ça.
Sachant que l'idée de l'association, c'est de trouver un logement transitoire. Hein. Tu le disais, les baux sont de 18 mois et c'est vous qui êtes le titulaire du bail. Oui. Donc, c'est sécurisant pour les propriétaires. Mais que vous veillez aussi au quartier, parce que l'idée, c'est d'encourager la mixité sociale qui fait partie des solutions pour sortir de la précarité.
Oui, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte, pas l'association, mais la société s'est rendu compte que créer des ghettos, le phénomène de ghettoisation qui a été mis en place avec les banlieues, ça n'a pas du tout favorisé l'inclusion sociale. Et souvent, les personnes qui souffrent de précarité, ils sont aussi exclus de la société. Hein, c'est sûr, quand on a moins de sous, on sort moins, on fait moins de rencontres. Donc, le cœur de l'association, c'est vraiment de loger les personnes dans des logements en cœur de ville, avec une possibilité de sortie, de transport. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas tous les logements. Parce que c'est sûr qu'on a parfois des demandes de propriétaires qui ont un logement dans une campagne, mais nous, ça ne va pas être rendre service à la personne.
Que de l'isoler.
Mais c'est ça, parce que nous, on essaie vraiment de les accompagner dans cette autonomie, dans cette insertion sociale, et pas juste de les loger en attendant qu'ils aient un logement.
Comment tu es devenue chargée de communication pour Habitat et Humanisme ? T'étais déjà dans la com ou t'étais plutôt dans le social ?
J'étais plus dans le social. Je travaillais pour le BTP, pour les bailleurs sociaux. Mais moi, j'étais bénévole dans l'association avant d'être salariée. Et après, on m'a proposé ce poste. Mais oui, je faisais un peu de com en bénévole et un peu de gestion locative. Et à DAC, comme on est une petite antenne, c'est vrai qu'on a tendance à faire vite fait un peu de tout.
Comme dans toutes les petites structures.
Oui. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien pouvoir... Comme ça, on voit vraiment l'entièreté du mouvement, tous les pôles travaillent ensemble, donc c'est intéressant.
Et comment c'est venu, ton envie de t'engager pour une association et pour celle-là en tant que bénévole ?
Du coup, j'ai travaillé pour les bailleurs sociaux et c'est vrai que moi, ça m'a toujours touchée. Ma mère travaille aussi pour un bailleur social, donc ça m'a beaucoup touchée depuis que je suis toute petite, cette crise du logement. C'est vraiment, dans notre association, on dit la pierre angulaire d'avoir un logement. Même moi, personnellement, j'y suis attachée à être chez moi, à être bien chez moi. Et ça m'a fait beaucoup de peine de voir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir ce socle. Et c'est comme ça que j'ai envie de m'investir pour le mal logement.
À tes côtés, combien de collaborateurs chez Habitat et Humanisme Pyrénées Adour, alors tant au niveau des salariés que des bénévoles ?
Alors, bénévoles, on est 130, 140, dispatchés sur Tarbes, Pau, Bayonne, Dax. Salariés, on est 11, je crois, ou 10, mais voilà, petite équipe, c'est pas mal quand même. On n'est pas beaucoup d'associations locales à avoir 11 salariés, et voilà.
Et vous recherchez évidemment des propriétaires solidaires. Est-ce que vous êtes toujours aussi en recherche de bénévoles,
envie de s'impliquer ? Toujours, parce qu'on est 130, mais pas forcément 130 disponibles toute la semaine. Donc on a de gros besoins. Nous, on a plusieurs sortes de bénévoles. On a des bénévoles qui accompagnent les locataires, donc pour lutter contre cette exclusion sociale, qui favorisent le lien. On a ceux qui font de la gestion locative, ceux qui font du bricolage dans les logements. On en a besoin à la com, mais il n'y en a pas trop, mais... On en a besoin. Il y a ceux qui cherchent aussi des financements. Donc c'est vrai qu'on essaie de créer plein de missions différentes pour que chacun puisse y trouver son compte.
Donc toutes les compétences sont les bienvenues.
C'est ça, tout à fait.
Et on peut vous faire des dons aussi.
Ah oui, comme toutes les associations.
Comment vous fonctionnez d'un point de vue financier, justement ? Vous êtes titulaire du bail et c'est vous qui payez le loyer. Quel est le ratio entre les aides de l'État, les dons, peut-être d'autres sources de financement ?
Nos sources de financement ? Oh là, alors là, il faudrait demander aux responsables financiers. C'est vrai qu'on a des subventions, notamment pour les assistantes sociales. pour faire de l'intermédiation. En fait, ça s'appelle de l'intermédiation locative, ce qu'on fait. Donc, les assistantes sociales, leur salaire est payé par les subventions de l'État. Après, on essaie de développer le mécénat avec des entreprises, beaucoup. On a des donateurs particuliers.
Les donateurs.
Et des fonds propres quand on arrive à en développer, mais. Voilà, beaucoup de donations, je pense.
Bon, un équilibre financier toujours...
Ça va. Mais c'est vrai qu'une association, enfin, toujours faire attention. Là, il suffit qu'on ait un locataire qui ne paye pas ce qui est arrivé, son loyer pendant quelques mois. Ben, nous, tout de suite, ça va, c'est vite compliqué.
C'est à vous de prendre en charge. Votre feuille de route pour cette année ? Se faire connaître des propriétaires ?
Oui, renforcer nos équipes, parce que c'est vrai qu'on a des bénévoles un peu essoufflés sur certaines régions, c'est plus ou moins difficile. Donc renforcer nos équipes, trouver des nouveaux logements. Et voilà, on a des gros projets immobiliers aussi qui sortent sur certaines antennes. Là, à Tarbes, il y a une pension de famille, une maison intergénérationnelle qui va voir le jour fin 2025. Dans la région de Pau, il y a une pension de famille aussi qui va sortir. Et donc, il y a toujours des projets immobiliers aussi, des gros projets immobiliers qui voient le jour.
Que vous menez, vous, ou c'est conjointement, non, que vous
menez ?
On
mène, nous. Donc ça, c'est très difficile. Il faut trouver des subventions, trouver là, des bénévoles vraiment calés en immobilier, parce que c'est très technique pour monter des projets et des opportunités. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas acheter un bien au prix du marché, nous, et monter une opération équilibrée, ce n'est pas possible. Donc on cherche.
Et pension de famille, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pension de famille, c'est un habitat collectif pour des personnes en situation de difficulté qui ne savent pas forcément être autonomes. Donc il y a un travailleur social sur place qui va mener un vrai projet social. C'est vraiment un habitat collectif comme ça.
Parfait. Si des propriétaires nous écoutent et sont tentés de devenir solidaires, quel est le moyen le plus simple de vous contacter ?
Alors, il y a notre site internet, habitat-humanisme.com. Il y a une page spéciale pour les Pyrénées à Dours. Et après, même sur internet, on tape habitat-humanisme, Dax, Bayonne. Il y a le numéro de téléphone.
Et pour les bénévoles, donc, vous avez une antenne à Dax, une à Bayonne et...
Oui, une à Pau, une à Tarbes. Et après, on va... Des logements à Tarnos, donc on n'a pas d'antenne à Tarnos, mais c'est soit nos bénévoles de Bayonne qui peuvent y aller, soit nos bénévoles de Dax.
Très bien. Et pour en savoir plus, je vous invite à vous connecter donc sur le site habitat-humanisme.org, que vous ayez des compétences, envie de donner votre temps ou de devenir propriétaire solidaire. Il y a également le compte Instagram Habitat et Humanisme, et puis votre association locale est sur Facebook, oui. Lorraine Habitat et Humanisme Pyrénées à Dours. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Pour ta venue et votre engagement.
C'était Good Morning Hossegor, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.